Bonjour, c'est Marie Lalande au micro d'Imagémo à voix haute, épisode du 25 février 2024. Aujourd'hui, en deuxième partie d'émission, dans les coulisses du livre, je reçois un prolifique duo d'auteurs, illustrateurs, éditeurs, Marianne Dubuc et Mathieu Lavoie. Et comme d'habitude, on terminera l'émission avec les actualités littéraires. Mais d'abord, en première partie, dis-moi ce que tu lis. Je rencontre une enseignante de quatrième année de l'école Saint-Jean-Baptiste à Québec, Annie Pelletier, et trois des élèves de sa classe, Tessa McKenzie, Pénélope Guzman et Nicolas Fenchel. Et c'est Geneviève Mangerel de BANQ qui nous présente des histoires autochtones dans la chronique des livres qu'on écoute. Encore une fois, tout plein de livres et de choses à découvrir sur la littérature jeunesse.
Dis-moi ce que tu lis.
Dis-moi ce que tu lis, c'est le moment de l'émission où on rencontre des gens qui lisent les livres jeunesse. Aujourd'hui, on rencontre Annie Pelletier, qui est enseignante en quatrième année à l'école Saint-Jean-Baptiste à Québec, et trois de ses élèves, Tessa McKenzie, Pénélope Guzman et Nicolas Fenchel. Bonjour à vous quatre et bienvenue à Imagémo à voix haute.
Bonjour!
Bonjour!
C'est grâce à la technologie qu'on peut se parler parce que vous êtes en classe à Québec et nous, on est en studio. Annie, on l'a dit, votre école fait partie est à Québec et fait partie du centre de services scolaires de la capitale. Qu'est-ce qu'on peut dire de votre milieu scolaire, Annie?
Alors, l'école Saint-Jean-Baptiste, c'est un très beau milieu. C'est au cœur du Vieux-Québec. C'est dans un quartier où la culture et les arts sont omniprésents. C'est aussi un quartier là, qui se caractérise par une grande diversité et des belles valeurs d'ouverture. Nos élèves proviennent de milieux socio-économiques variés et on peut dire aussi là, qu'on accueille des enfants là, de 17 pays. En tout, à Saint-Jean-Baptiste, là, on a un peu moins de 300 jeunes qui sont répartis dans 13 classes. Oui. Puis, je pourrais ajouter là, que nos élèves sont très cultivés, curieux, ouverts d'esprit. Et j'ajouterais que le personnel est aussi très allumé, très engagé. C'est vraiment une école extraordinaire.
En tout cas, on entend le sourire dans la voix, Annie. On se connaît parce qu'on s'est rencontrés à une autre époque quand nous étions toutes les deux conseillères pédagogiques de français. Vous avez décidé il y a quelques années de retourner enseigner dans les classes et de vivre concrètement ce que vous proposiez aux enseignants. Déjà, vous avez toute mon admiration. Dites-nous, quelle place faites-vous à la lecture et à l'écriture dans votre classe de quatrième année en tenant compte de la réalité de votre milieu scolaire?
Bon, quand les élèves entrent dans ma classe en début d'année scolaire, là, à la fin août, là, moi, je veux qu'ils sentent rapidement que la lecture occupe une place super importante. Moi, j'accueille des lecteurs ou des élèves qui vont le devenir.
OK.
J'ai la chance d'avoir un grand local, ce qui me permet d'avoir un gros coin lecture. J'ai même déjà eu un gazebo là, d'artistes là, dans ma classe. Là, ça donne le ton, hein? Ça permet de voir à quel point tu sais, c'est important pour moi.
Ouais.
J'ai une bibliothèque classée, j'ai un divan, des coussins. Donc, c'est un coin qui est confortable, qui est organisé, qui est invitant. Je dirais aussi que mon coin lecture puis mes livres...
Ah, ça, c'est la réalité de l'école.
Oui,
hein?
Ça, c'est la réalité.
C'est l'intercom, hein?
Ouais. J'ai également... oui, c'est ça, là. C'est ça, des fois, des petites interruptions.
C'est la
comme
vie.
C'est le cas. Alors, donc, comme je le mentionnais, là, mon coin lecture il est bien important dans ma classe parce que mes livres et mon petit coin lecture, ce sont mes principaux alliés là, dans mon enseignement de la lecture. Tu sais, comme CP, là, j'ai lu beaucoup de choses, je suis allée chercher beaucoup d'informations, évidemment, comme tu l'as mentionné, Marie. C'est sûr que quand on arrive dans la classe, on s'ajuste, on s'adapte. Mais je dois dire que parmi les ouvrages qui m'ont beaucoup influencée, il y a celui de Régis Routeman, « Enseigner la lecture, revenir à l'essentiel ». Ce que j'ai retenu de ce livre, là, c'est qu'en plus d'un coin lecture bien garni, ben l'essentiel, c'est l'enseignement des stratégies, le carnet carnet de lecture, la lecture interactive, toutes les conversations là, qu'on a autour des livres, que ce soit par des formules d'entretien, puis bon, tous les autres dispositifs qui amènent les lecteurs non seulement à lire, mais aussi à réfléchir sur leur lecture.
C'est l'essentiel, effectivement. Je suis allée dans votre classe il y a quelques semaines. J'ai rencontré des lecteurs passionnés, autonomes, des enfants allumés, capables de parler de leurs livres préférés, des personnages à qui ils s'identifiaient, puis de certains moments, des certains éléments d'appréciation littéraire. Je propose, Annie, si vous voulez, qu'on leur donne la parole. Tessa, Pénélope et Nicolas, vous avez choisi de nous parler de certains livres que vous avez lus et appréciés. Donc, on va parler de ces livres-là. Commençons par Nicolas. Nicolas, toi, qu'est-ce que c'est le livre dont tu veux nous parler?
Moi, c'est Pax et le petit soldat, illustré par John Classen et écrit par Sarah Pennypacker.
Ouais.
Je trouve que le livre est un chef-d'œuvre car ça nous fait sentir plusieurs émotions, que les personnages ont chacune leur personnalité, puis que les illustrations de John Classen, tout comment, c'est pas trop réaliste, mais c'est comme plein de petits traits partout dans l'image qui font en sorte que ça donne un vraiment beau dessin. Moi, je trouve que le livre me fait, est vraiment bon, l'histoire est bonne. Moi, c'est mon livre préféré que j'ai lu jusqu'à maintenant dans mon histoire de la lecture.
Ouais. Donc, tu me parles du tome 1. Parce qu'il y a un deuxième tome. Raconte-nous un petit peu, qu'est-ce que ça raconte? Ça parle de quoi? De qui? C'est l'histoire de qui? Et c'est l'histoire de quoi?
C'est l'histoire de Pax et de Peter, deux amis inséparables. Un garçon, Peter, et Pax, un renard. Et puis, la guerre éclate. Obligé de se séparer, Peter part chez son grand-père et Pax est abandonné dans la forêt. Peter fugue pour aller retrouver Pax. Et Peter abandonne ses parents pendant un bon bout. Beaucoup de chapitres, on voit vraiment Peter qui traverse, qui fait une grande, grande route, qui va rencontrer Vola, puis qui va se pratiquer. Puis il veut quelques petits trucs qu'il n'aurait pas imaginé. C'est moins bien passé que ce qu'il se pensait.
Oui, il y a comme des obstacles hein, à ça, parce qu'il veut retrouver son renard. Puis on voit le renard aussi de l'autre côté. Il y a deux parties dans le livre.
Oui, de la parole qui est à Peter.
Oui, à Peter.
Puis des fois au renard. Oui, c'est ça. Puis toi, ton personnage préféré, Nicolas, c'est lequel?
Moi, c'est Avorton. C'est un renard que Pax va rencontrer dans la forêt, qui fait un peu pitié, comme qui est tout maigre, et qui a un renard gris aussi. Mais ce qui me fait en plus, ce qui m'a fait me faire pleurer dans le livre, c'est que à mon avis, il va toucher un câble électrique. Puis sa patte va comme poser en quelque sorte.
Ah oui, c'est un moment très émouvant, ça. À qui tu le conseillerais, ce livre-là? À quel des lecteurs de quel âge?
Ben, à des lecteurs vers mon âge, parce que c'est pas si gros que ça.
Ouais.
C'est 300 pages, 30 chapitres. Mais moi, aussi, c'est parce que s'il y a des plus petits qui lisent ça, je trouve qu'ils vont pas trop comprendre l'histoire.
Mm-hmm.
Alors, ça fait en sorte que c'est un livre grand lecteur.
D'accord.
C'est même un coup de cœur d'Annie. Alors, moi j'ai tout de suite pris quand même le conseil.
Coup de cœur d'Annie, coup de cœur de Nicolas. Est-ce que tu voudrais nous en lire un petit extrait, un court extrait, Nicolas?
Oui.
On t'écoute.
C'est mon territoire. Pax fut si surpris qu'il fallait tomber du tronc de chêne sur lequel il somnolait. Il avait veillé toute la journée sans rien voir de plus grand qu'une sauterelle. Et maintenant, voici que se dressait devant lui une renarde à la fourrure éclatante. Il n'avait jamais vu l'un de ses semblables auparavant, mais il sut tout de suite que c'en était un. Plus jeune, plus petit et femelle. Mais c'était un renard.
Wow! Ça donne le goût de lire. Moi, je le conseille aussi, comme toi, Nicolas. Je te remercie beaucoup. On va aller voir Pénélope maintenant. Pénélope, toi, de quel livre tu veux nous parler?
Moi, j'ai adoré le livre « Les enfants de la Nouvelle-France ».
Oui?
J'ai adoré parce que, ben, on voyait, genre, ça m'a beaucoup appris.
Oui.
Premièrement. Deuxièmement, ça nous parle des enfants qui ont marqué l'histoire en quelque sorte.
OK.
Puis j'aime bien, ça m'a vraiment beaucoup aidé en univers social. C'est comme si dès que j'ai lu la première petite partie, j'ai eu envie de lire et lire et lire, puis continuer à lire ce livre.
Donc, c'est un livre qui t'a aidé à apprendre des choses. Comme est-ce que c'est un livre documentaire, Pénélope?
Oui.
Ah, c'est un livre documentaire, c'est intéressant. C'est un autre style. Est-ce que c'est une histoire ou plusieurs petites histoires? Qu'est-ce qui se passe dans ce livre-là?
C'est plusieurs petites histoires de plusieurs enfants de la Nouvelle-France.
Oui. À
Puis,
l'époque de la Nouvelle-France. Ça se passe à l'époque de la Nouvelle-France.
oui.
OK. Puis est-ce qu'il y a un personnage que tu as aimé plus que les autres, toi?
Moi, c'est vraiment Kandraka.
Pourquoi?
Une petite fille en Huronie.
En
Puis,
Huronie,
j'ai bien
donc.
aimé. Ça m'a fait faire des liens avec ce que j'avais appris
Ouais.
l'année passée, cette année.
Est-ce que tu as un exemple de lien, Pénélope?
Un exemple de lien.
Oui, j'en ai un.
Ouais. On t'écoute.
Je suis Kandraka de la nation Wendat. Avec ma famille, je vis dans un village fortifié où habitent plus de 1 000 personnes. Je connais tout le monde, bien que toutes ne dorment pas dans la même maison longue que moi. On compte une trentaine de cette construction en bois.
Ah, fait que c'est intéressant, tu as choisi de nous lire cet extrait-là. Donc, il nous montre comment, dans quel genre d'habitation les Wendat habitaient. Tu le conseillerais à qui comme lecteur, ce livre-là, Pénélope?
Mais surtout aux enfants qui s'intéressent à l'histoire de la Nouvelle-France et tout ça, aux personnes qui aiment l'histoire surtout,
Oui, évidemment, hein?
aux enfants de peut-être 7, 8 ans à quoi, 10 ans ou 11.
D'accord. Donc, plus au deuxième cycle. Je te remercie
Ça.
beaucoup, Pénélope. Merci beaucoup. On termine avec toi, Tessa. Qu'est-ce que ça raconte, toi, le livre dont tu as choisi de nous parler?
Ben, c'est un garçon qui vient de déménager dans une maison mystérieuse
Oui.
avec son chat et ses deux parents.
Oui. On a oublié de dire le titre, hein, puisque j'ai oublié de te le demander. Qu'est-ce que c'est?
L'étrange fille au chat par Rémi Simard et Julie Rochelot.
Ah, oh, ça, c'est publié chez La Courte Échelle. Hein? Ça fait partie de la collection Noire. Donc, je te laisse continuer à raconter de quoi ça parle et puis qu'est-ce qui se passe dans ce livre-là.
Donc, c'est le garçon. Donc, il vit dans une maison qui est nouvelle, mais sa maison est quand même très. Sa maison fait vraiment peur.
Oh!
Même si elle vient d'être nouvelle, il y a un fantôme qui vit dans sa maison. Il vient dans son jardin pour se balancer. Le garçon, il a beaucoup d'imagination. Puis ses parents, eux, ils disent qu'il a trop d'imagination.
Personne ne
Mais lui,
croit, hein, c'est ça.
ouais, personne ne le croit quand il dit des trucs, mais c'est vrai qu'il y a un fantôme et tout. Il raconte ça à ses parents, mais ses parents pensent juste qu'il est fou.
Ah oui, pauvre lui. Est-ce que t'as, donc t'as aimé ça? Est-ce que t'aimes ça lire ce genre de livre-là, toi?
Oui, j'adore, parce que c'est un livre d'horreur.
T'aimes ça
J'adore les livres.
l'horreur, toi. Puis, c'est qui ton personnage préféré dans cette histoire-là?
Moi, c'est le chat,
Oui.
le garçon, parce qu'il est identique à mon chat.
Oh, il ressemble à ton chat, toi. Est-ce que tu voudrais nous en lire un petit bout, Tessa?
Ouais.
On t'écoute.
Je n'arrivais pas à m'endormir. Dehors, le vent et la pluie étaient de plus en plus intenses. À un moment, le chat s'est réveillé et a dressé les oreilles. La température a soudain chuté. On aurait dit qu'il faisait -1000 dans la pièce, mais je n'ai pas eu le temps d'y penser très longtemps. Quelqu'un s'approchait de ma chambre. C'était papa, maman, je ne reconnaissais pas les pas.
Annie, on va revenir à vous. Merci, Tessa. On revient à vous, Annie. De
Oui.
quelle façon vous présentez les livres, les genres littéraires, les auteurs, les autrices, aux enfants? Est-ce que vous fonctionnez par thème? Est-ce que vous fonctionnez par des modules d'atelier? Est-ce que vous avez des bacs de livres que vous proposez?
Ben, en fait, je touche à plein, plein de petites choses, là. J'ai une planification qui est quand même assez souple. Moi, je commence l'année en parlant de mes lectures d'été. J'aime beaucoup, parler de mes coups de cœur, valoriser ceux des élèves pour créer un genre de buzz autour d'un livre, d'un auteur, d'une collection. Je pense que mes élèves savent que j'adore Marie-Renée Lavoie, la collection Noire, hein, dont Tessa vient de nous parler, Claude Ponty, Michaël Escoffier, Rascal. Je dirais que le buzz actuellement là, chez mes grands lecteurs, c'est justement Pax que Nicolas nous a présenté.
Depuis que je l'ai présenté, toute la classe
Toute la classe veut le lire,
Ben
puis Marie
oui.
Lavoie, on est rendu au troisième tome, là, puis là, les élèves se l'arrachent, là. Donc, on crée un phénomène de rareté dans notre bibliothèque de classe.
Oh,
Je
wow.
peux
Oui, on se prête des livres, tout ça.
C'est génial, ça. C'est
Ben
génial.
oui. Puis par ailleurs, là, tu sais, quand on a un auteur qui vient nous visiter, ben c'est sûr qu'on se plonge dans les livres de celui-ci avant sa visite. Tu sais, on a eu Martine Latulippe qui est venue en octobre. On a fait un cercle de lecture sur la collection des Julies avant son passage. Si on travaille un élément littéraire, ben je vais mettre en réseau des livres qui nous permettent des comparaisons autour de cet élément-là. On peut faire des combats de livres aussi. Puis ben évidemment, là, ben, je tiens compte également là, des modules qui sont à l'étude en écriture. Par exemple, au moment où on écrit des documentaires, ben, on se plonge dans les documentaires. Et les élèves doivent aussi en avoir dans leur boîte de livres.
Donc, il y a un
Donc,
lien direct entre l'écriture puis la lecture dans la classe.
tout à fait, tout à fait.
L'an passé, vous me disiez que vous avez bénéficié du programme de résidence d'auteur en milieu scolaire. Il y a un
Oui.
volet où est-ce que les écrivains peuvent venir faire des résidences dans les écoles. C'est lié à la culture à l'école. C'était qui l'autrice ou l'auteur l'an passé?
On a eu la chance d'avoir l'excellente et dynamique autrice Émilie Rivard pendant 12 semaines à notre école.
Hey boy!
Alors, oui, ça a été extrêmement riche. Elle a animé des ateliers dans nos classes, dans l'ensemble des classes de l'école. Et aussi les élèves là, dans leur processus d'écriture, quand ils étaient bon, il y avait besoin de conseils, ils pouvaient aller voir là, Madame Rivard dans son local, puis échanger avec elle. Puis Émilie Rivard écrivait un roman qui se déroulait dans le quartier Saint-Jean-Baptiste. Et parallèlement à ça, nos élèves aussi là au deuxième cycle écrivaient un roman, une histoire, un récit là, qui se déroulait dans le quartier. Alors, ça a été très, très, très riche.
Et Nicolas, Tessa, Pénélope, est-ce que vous vous souvenez de quelque chose qui s'est passé qui était vraiment le fun avec Émilie Rivard?
Elle nous faisait faire des ateliers, genre elle nous faisait créer des histoires à l'impro. Et elle nous faisait proposer des idées pour son histoire. Et elle nous montrait comment écrire ses histoires. Elle partait de plusieurs petites idées. Elle en choisit environ trois. Puis après, à partir de ces idées-là, elle mettait des lignes. Et cette idée était au milieu. Elle prenait toutes les lignes qu'elle pouvait. Puis sur les petites idées, elle en mettait d'autres. Elle nous a fait créer une histoire avec cette manière-là.
C'est des belles techniques, hein, pour apprendre à écrire. Alors, écoutez, on aurait continué à jaser comme ça longtemps, longtemps, longtemps. Je voudrais vous dire merci. Merci, Tessa McKenzie, Pénélope Guzman, Nicolas Fenchel, d'avoir pris le temps de parler lecture avec nous aujourd'hui. Merci, Annie Pelletier, de faire vivre la lecture dans votre classe, de lui donner une place de choix et de proposer aux enfants dans votre classe un milieu de vie calme, apaisant, enrichissant, où chacun, chacune peut s'épanouir harmonieusement. Je vous souhaite une belle, belle, belle journée. Je vous remercie beaucoup, beaucoup pour l'entrevue. Au revoir.
Merci de l'invitation. Au revoir.
Merci.
Merci. Bye.
La chronique des livres qu'on écoute.
Aujourd'hui, c'est Geneviève Mangerel, bibliothécaire au service adapté de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, BANQ, qui assure la chronique. Bonjour Geneviève, très très heureuse de vous accueillir.
Bonjour Marie.
Geneviève, vous vous intéressez à tout ce qui touche à l'accessibilité, à l'inclusion, et aujourd'hui vous nous faites découvrir des histoires autochtones. On vous écoute.
Alors, ma première suggestion s'intitule « Le voyage de Kwikwi et Moultes » de Joanne Pauny Parent. Ce livre est paru en 2010 aux éditions Planète Rebelle en version imprimée avec un CD. Et aujourd'hui, on peut trouver le livre audio sur la plateforme Audio de Radio-Canada. Mm. Le narrateur est Robert Savencrows et on entend aussi des chants et de la musique de tambour et aussi des bruits de la nature. C'est très sympathique.
Ouais.
Pour accomplir un grand voyage, deux jeunes qui s'appellent Kwikwi et Moultes ont besoin de la sagesse du grand-père, le Mouchoum, et de la grand-mère, la Koukoum. Ils seront guidés par un cerf, une corneille et un saumon, et aussi par le tambour de leur grand-père qu'on appelle le Tawegan.
OK.
On écoute un extrait?
D'accord.
Ils ont voyagé toute la journée en compagnie de Plamon, le saumon. Suivre un saumon, c'est toute une aventure, car les saumons remontent le courant de la rivière, sautent les chutes et les cascades. Au coucher du soleil, le plamon leur dit « C'est ici que nos sentiers se séparent. Au revoir. » « Les plamons, dirent les enfants d'un ton désespéré, « ça fait 3 jours que nous voyageons en forêt et notre mouchoum nous a dit que nous trouverions la coucoum après 3 jours. Où est-elle? » Le plamou leur dit
« Regardez le wigwam au bout du lac. »
Les enfants regardèrent et en effet, il y avait un wigwam couvert d'écorce de bouleau blanc, tout lumineux. « Est-ce le wigwam de notre grand-mère? » dirent les enfants tout excités.
Ah, c'est formidable, on est dans la rivière avec eux, hein? C'est magnifique.
Allons-y avec la deuxième suggestion qui a pour titre « Bâton à message Tesnouastagana » de la célèbre poétesse Innu Joséphine Bacon.
Oui, qu'on aime.
Oui. Ce recueil de poèmes est en français et aussi en langue Innu Aïmoun. Il a été publié en 2009 aux éditions Mémoire d'Encrier. Le livre audio, comme le précédent, on peut le trouver sur la plateforme audio de Radio-Canada. Et la narration est faite par l'auteur elle-même, Joséphine Bacon, et aussi par l'actrice Chloé Sainte-Marie. Mm-hmm. Les bâtons à message sont un ensemble de repères qui permettent aux nomades d'orienter leur marche. À l'aide de cette image, l'auteur nous transmet la culture d'entraide, de solidarité et de partage de son peuple. On écoute un extrait.
Les arbres ont parlé avant les hommes. Tesnouastagana, des bâtons à message, servaient de repères à mes grands-parents dans le Nautmut, à l'intérieur des terres. Les Innus laissaient ces messages visuels sur leur chemin pour informer les autres nomades de leur situation. Ils plantaient 2 morceaux de bois d'épinette blanche, plus ou moins courts, l'un à l'oblique de l'autre. Un bâton penché très près du sol contre un bâton vertical signifiait la famine et son orientation désignait comme une boussole le territoire où ils se rendaient.
Wow! Quelle voix, hein?
Oui.
Oui.
Comme troisième titre, je vous suggère « La créature des neiges » de Stéphane Simard. La version imprimée de ce livre est parue en 2000 aux éditions du Soleil de minuit. On peut trouver le livre audio sur la plateforme BANQ numérique ou sur Raconte-moi une histoire, un service disponible en ligne ou par téléphone. Mm-hmm. Attention, je vous préviens, cette histoire est légèrement effrayante, mais pas trop. Le grand-père raconte une histoire à ses petits-enfants. En plein hiver, 3 hommes se réfugient dans une cabane au milieu de la forêt. En pleine nuit, on cogne à leur porte. Ils hésitent, mais ils finissent par ouvrir la porte. Apparaît alors un être immense et terrifiant qu'ils laissent entrer. Et je vous en dis pas plus parce que je veux pas divulgâcher la fin de l'histoire.
Non.
Par contre, je veux bien vous laisser écouter un extrait.
Oui.
Au 9e jour de la tempête... Alors que nous étions assoupis, j'entendis 3 coups distincts à la porte. Je ne fis pas trop attention, mais soudainement, trois autres coups retentirent. Toujours perplexe, mais plus attentif, j'attendis et écoutai. En plus d'être glacé de froid, j'étais glacé de peur. Affolé, je tentais désespérément de réveiller mes compagnons. Je dus les emmener pratiquement de force jusqu'au seuil de la porte. Je leur dis qu'il y avait quelqu'un dehors, mais à leur regard, je savais bien qu'ils ne me croyaient pas.
Oula, c'est mystérieux.
Mystérieux.
Oui.
Ma dernière suggestion s'intitule « Les papinachois » de Michel Noël. Le livre imprimé a été publié en 2012 aux éditions Dominique et compagnie. Comme pour le titre précédent, le livre audio est disponible sur BA1Q numérique et aussi sur Raconte-moi une histoire.
Ouais.
Le soir, le clan des papinachois s'assoit autour du feu. Les jeunes questionnent les aînés sur l'origine du monde, sur les temps anciens, la vie en forêt ou les animaux. Pour répondre aux questions, les grands-parents racontent des histoires. On peut écouter un extrait.
Quand les membres du clan ont une décision importante à prendre, ils viennent voir Papa Papinachois et lui demande « Dis-nous ce que tu en penses. » Papa Papinachois réfléchit longuement avant de donner son avis. Ses conseils sont toujours remplis de sagesse. Tous l'écoutent, l'aiment et le respectent. À la brunante, le clan se rapproche du feu qui pétille au cœur du village. C'est une heure propice aux conversations. Petits et grands font cercle autour de grand-papa et grand-maman Papinachois. Les jeunes les questionnent sur l'origine du monde, les temps anciens, la vie en forêt, les animaux.
C'est intéressant, Michel Noël, quand même, vous avez dit la date de cet ouvrage-là, c'est 2012.
C'est 2012.
Quand même, et c'est intéressant parce que c'est toujours accessible, toujours près de nous. Magnifique. Merci Geneviève. Donc, quatre suggestions. Merci pour cette première collaboration. Sur le site de l'émission, on retrouvera les liens vers les titres mentionnés. Au grand plaisir de vous retrouver.
Merci Marie. À bientôt.
On se quitte pour quelques minutes, le temps d'une courte pause. Au retour, je reçois un duo de feu très connu des petits lecteurs, tous les deux auteurs, illustrateurs et éditeurs, Marianne Dubuc et Mathieu Lavoie. Et bien sûr, il y aura des actualités littéraires. À tout de suite! Bienvenue en deuxième partie d'Images et mots à voix haute.
Je m'appelle Floralie, j'ai 7 ans. J'aime les documentaires parce que ça me fait voyager. Et aussi, j'aime les albums parce que ça me fait aussi voyager.
Dans les coulisses du livre.
Dans les coulisses du livre, c'est le moment de l'émission où on rencontre des gens qui font les livres jeunesse. Marianne Dubuc et Mathieu Lavoie, bonjour et bienvenue à Images et mots à voix haute.
Bonjour Marie.
Bonjour.
Vous portez tous les deux quelques chapeaux professionnels. Vous êtes tous les deux auteurs, autrices. Je ne sais pas si on dit auteur. Qu'est-ce qui te plaît plus, Marie?
Ben, autrice, illustratrice, c'est un peu répétitif.
Mais c'est ça.
Mais j'ai lu à un endroit qu'au Moyen-Âge, les métiers avaient leur féminin, sculptrice, autrice et tout bon. Ça. Puis ça s'est perdu par la suite.
Ouais.
Donc, par souci de féminisme, je vais accepter autrice.
Autrice, alors. Donc, auteur, autrice, illustrateur, illustratrice, éditeur, éditrice. Et donc, vous avez cofondé les éditions Albums en 2018. Vous êtes partenaire dans la vie et au travail. Un beau défi. Vous êtes aussi parent. Un autre défi. Comment vous faites pour séparer la vie personnelle de la vie professionnelle? Est-ce que vous avez des espaces de travail distincts? Est-ce qu'il y a des moments dans vos journées où c'est interdit de parler boulot?
Je vais y aller.
Oui.
En fait, Mathieu et moi, on s'est connus à l'UQAM en design graphique au début de notre bac, à la première session au premier mois.
Ouais.
Puis on est devenu un couple très rapidement. Et donc, en fait, toute notre vie de couple s'est bâtie autour de notre milieu professionnel parce que le design graphique est resté dans nos vies professionnelles. Ouais. Puis par la suite, notre premier enfant est né quand j'ai commencé à faire mes livres. Donc, en fait, la famille puis la vie personnelle a toujours été liée à notre vie professionnelle. Donc, pour répondre simplement, on ne la sépare pas.
Ouais.
Ça vient l'un avec l'autre.
Mais il y a à peu près un an, on a trouvé un espace de travail pour que ce ne soit pas à la maison. Puis j'avoue que ça aide quand même à avoir une certaine coupure. Il faut dire aussi que nos enfants sont devenus des adolescents à travers les années.
Ça, c'est
et donc,
défi.
On a quand même un peu plus de liberté ou de souplesse.
Oui, eux, ils avaient besoin de plus d'espace aussi.
Ouais.
Un espace pour créer aussi. Puis... Donc, on leur a donné comme la pièce qu'on utilisait à la maison comme bureau.
OK.
Puis là, on a trouvé cet espace-là qui est beaucoup plus grand, puis qui permet justement de fermer la porte, de rentrer à la maison, de faire la coupure. Mais c'est sûr que, bon, dans les métiers de création, la porte n'est jamais fermée, en fait.
Non, c'est comme dans l'enseignement, ça,
c'est
effectivement.
Ça.
On est toujours, c'est toujours dans notre tête.
Comme Marianne, elle aime dire souvent, on est... toujours en vacances et jamais en vacances.
Ah, c'est intéressant comme parallèle. Alors, Marianne, on parlait de vous. Je voudrais présenter quelques éléments de bio pour chacun d'entre vous, et Marianne et Mathieu, pour les auditeurs qui vous connaissent moins. Marianne, vous êtes née à Montréal, vous avez fait un bac en design graphique à l'UQAM et votre carrière d'autrice illustratrice jeunesse a débuté en 2006. Vous êtes traduite en plus de 30 langues et vous publiez vos livres maintenant chez Album et chez divers éditeurs notamment. Mathieu, vous avez étudié en design graphique aussi à l'UQAM, donc vous l'avez dit, c'est là que vous vous êtes rencontrés tous les deux. Et puis vous avez fait un autre bac en photographie à Concordia. Vous êtes auteur, illustrateur et designer. Vous avez d'abord été directeur de création à la courte échelle, puis designer et cofondateur en 2013 de Comme des géants, où vous vous occupiez de l'aspect visuel, en plus de faire avec votre partenaire Nadine Robert les choix et le travail d'édition conjointement. Et puis vous avez cofondé ensemble la maison d'édition Album. Vous vous connaissez plutôt bien l'un et l'autre. Moi, j'ai le goût de vous demander ce que vous pensez du travail de l'autre. Marianne, qu'est-ce que vous pourriez dire de l'œuvre de Mathieu?
Ça, c'est une question,
étrangement.
Oui, c'est ça. j'ai réfléchi à ça. En fait, moi, je dirais que je décrirais les livres de Mathieu en quelques mots. En fait, ils ont une grande simplicité.
Ouais.
Mathieu fait vraiment confiance à l'intelligence des enfants.
Mm-hmm.
Puis je pense qu'en allant vraiment à l'essentiel en racontant ses histoires, il essaie vraiment d'épurer et d'aller à la simplicité.
Ouais.
Il réussit à faire des livres qui ont beaucoup d'humour, mais qui marchent super bien avec les petits. À chaque fois que je lis un de ses livres à des enfants, à des tout-petits, c'est incroyable la réponse qu'ils ont. Puis on le soupçonne pas des fois face à des livres qui sont très simples graphiquement, puis qui ont l'air un peu épurés, la force que ça peut avoir, l'espace que ça leur laisse. Donc ça, c'est les livres de Mathieu, mais Mathieu, il se résume pas juste à ses livres. Puis ça, c'est quelque chose que les gens savent moins, mais moi, que je sais parce que je le côtoie au quotidien depuis de nombreuses années. Mais en fait, les livres de Mathieu sont très graphiques.
Ouais.
Mais Mathieu, en fait, est capable de faire de la peinture ultra réaliste aussi. Il y a vraiment un large éventail visuel. Puis moi, j'en suis témoin à la maison parce qu'on fait souvent des jeux de dessin avec les enfants ou des fois, on fait juste dessiner, ils dessinent les enfants et tout ça.
Mm-hmm.
Donc moi, je le vois. Puis ça, c'est quelque chose que j'admire beaucoup chez lui, c'est que Mathieu, il a vraiment une grande richesse culturel puis de connaissances aussi. Il aime beaucoup, quand il y a un sujet qui le passionne, il va aller au fond du sujet.
Oui,
il peut lire sur le sujet pendant des semaines et tout ça. Donc, moi, c'est quelque chose que j'admire beaucoup chez lui.
Ah, c'est intéressant. Puis, Mathieu, vous, comment vous décririez l'œuvre de Marianne?
Moi, je pourrais... Bon, qu'est-ce qu'on... Je pourrais partir de son, tu sais, de l'enfance de Marianne que je connais d'elle, de ce qu'elle a raconté.
Oui.
Marianne, c'est une enfant unique. Donc, elle a grandi dans une maison où elle était souvent seule, mais très, très stimulée, en fait, par des parents qui étaient dans le milieu culturel puis qui côtoyaient une panoplie de gens intéressants. Marianne, elle avait beaucoup de matériel, elle avait beaucoup de crayons. Elle était très, très... tu sais, sa mère lui refusait jamais un crayon.
C'est la légende qui dit ça, mais c'est
vrai.
C'est la légende, là. Je recoupe en plus des trucs qu'elle aurait pu répondre plus tard, là. Mais donc, c'est ça, il y a cette partie-là où elle était souvent, elle se construisait son petit monde à elle, étant enfant unique. Puis, en même temps, étant seule, elle faisait beaucoup de télévision aussi. Fait qu'elle a regardé beaucoup de dessins animés, des émissions de l'époque Collargol.
Oui,
La Forêt Verte.
Oui, les contes de la Forêt Verte.
Les années 80.
Oui, les années 80. Hachi, probablement, des trucs comme
ça.
Thèmes,
c'était trop triste. Il y a des thèmes musicaux qui nous viennent en tête.
Oui, tout à fait. Donc, ça nourrit des livres aussi, là, des livres au père Castor qu'elle avait peut-être accès chez sa grand-mère ou aussi chez elle. Des contes un peu classiques, là, des trucs. Gerda Müller, qui est une Allemande là, qui a illustré Boucle d'or.
Oui.
Elle a fait un truc qui s'appelle Les bons amis, qui est aussi un livre, une histoire très mignonne, en fait. Puis là, tu sais, les gens qui la connaissent pourraient faire des parallèles avec les histoires de Marianne. Là.
Oui, beaucoup des livres avec des animaux. Alors, ça
oui, une influence, c'est ça. Oui, oui, vraiment, vraiment. Là. Beaucoup d'animaux, en fait. Oui. Marianne, elle aime beaucoup dessiner les animaux. Donc, Marianne, elle a un univers peuplé d'animaux, en fait.
Et de nature.
Et de nature. Une enfant qui est née en ville, en fait. Quand même, Marianne est née à Montréal, puis elle a vécu toute sa vie à Montréal, mais elle aime la nature. Pour moi, les livres de Marianne, ils sont comme indémodables.
Oui.
Donc, c'est pas, tu sais, on en parle souvent, puis on en a parlé avant de venir ici, quand on préparait ça. Puis, c'est pas des livres que tu regardes les images, puis tu te dis... les images, c'est à la mode, admettons. Là, c'est en 2015, là, c'est le truc à la mode.
Ouais.
Mais elle a quelque chose de très classique.
C'est intemporel.
Intemporel, classique. Je pense que ça va survivre. Ouais. Ben, déjà, il y a des livres en fait qu'elle a fait il y a 15 ans qui sont toujours...
Au goût du jour.
Qu'on réimprime toujours
ouais, en fait,
qui circulent, qui sont toujours en circulation. Donc, ça, c'est quelque chose que j'admire beaucoup aussi de son travail. T'sais, c'est qu'elle est capable de faire des histoires comme ça. Ses histoires sont touchantes. T'sais, elle a un registre très large, en fait.
Ouais.
Elle peut être... elle a une partie de son travail qui est très touchant. Puis après ça, elle est capable d'aller dans l'humour. C'est une dessinatrice... hors pair, là, tu sais, donc elle a ses livres, Les facteurs souris, les livres chez Casterman, qui sont peuplés de détails, là, beaucoup
c'est
de détails.
C'est formidable de vous entendre donc... parler l'un de l'autre, c'est magnifique. Je voudrais donc, revenons au livre de Marianne, parlons de ce que vous avez écrit. Déjà, quelques-uns de vos livres, vous avez écrit Le lion et l'oiseau, qui a obtenu le prix du gouverneur général en 2014, Le chemin de la montagne, qui s'est mérité le même honneur en 2018, et d'autres prix prestigieux, d'ailleurs. L'autobus, qui s'est mérité le prix des libraires et le prix TD. Et mentionnons également Ours et le murmure du vent, publié en 2020. Il y en a d'autres encore, toujours avec des petits personnages qui plaisent tant aux enfants. Lulu, Lucie, Baba, Nina, Milo. En plus de tous ces grands livres foisonnants, Mathieu en a parlé, publié chez Casterman. Dans votre travail, il y a des thèmes qui reviennent, la famille, la nature, l'amitié, l'empathie. On va écouter un court extrait d'une vidéo réalisée par la Fabrique culturelle où on vous entend quand vous aviez 10 ans.
Qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard comme métier?
Ben, moi, je voudrais faire être dessinatrice pour les jeunes enfants, puis écrire des histoires, puis faire leurs dessins, puis aussi faire des affiches pour eux, des affiches pour des expositions.
Wow! Dans cette vidéo, on reconnaît le timbre de voix. Hein? Vous dites que vous écrivez pour l'enfant que vous étiez. C'est comme ça que c'est le titre. Qu'est-ce qu'elle lisait? Qu'est-ce qui l'allumait, cet enfant? Mathieu en a parlé un petit peu. Pensez-vous qu'elle serait fière, cet enfant-là, de ce que vous devenez?
Ben, j'imagine que oui. En fait, oui, Mathieu a comme répondu à cette question à l'avance.
Ben, parfait,
donc, vous avez entendu quel genre d'enfant j'étais. Mais c'est sûr que je me souviens, quand j'ai enregistré cette vidéo-là, quand on m'a posé la question, je me souviens très bien, elle m'a dit « Mais je ne sais pas ce que je vais faire plus tard. » Pour moi, c'était pas clair, mais il fallait que je réponde.
Ah,
puis, je pense que c'est ma mère qui m'avait dit « Ben, réponds ce que tu aimes faire en ce moment. T'sais, vas-y simple. » Parce que j'étais consciente, je pense même à cette époque-là, mon père était dans le milieu du cinéma, puis tout ça, que le tracé pour devenir auteur-illustratrice n'était pas clairement tracé, comme d'autres métiers qui peuvent être plus simples. Donc, tu sais, c'était un peu les métiers artistiques, on sait jamais. Donc, j'ai quand même répondu ça, puis j'en parlais avec Mathieu ce matin, je me disais quand même que j'ai dit ça à 10 ans, c'est que déjà, je pense que mon univers, mon imagination s'exprimait beaucoup dans le milieu de l'enfance, tu sais, tourné vers l'enfance.
Ouais.
Donc, j'imagine que je serais fière si j'avais 10 ans et que je savais ça aujourd'hui. Mais voilà.
Vous avez aussi réalisé des murales dans des cours d'école ou sur des murs de bibliothèque et des illustrations pour le projet Boîte de lecture Literati. C'est comme ça qu'on prononce, aux États-Unis. Et vous collaborez avec La Clé, où vous animez des heures du conte improvisées sur Facebook. On élargit ici l'accès aux enfants. On bouge les murs. Comment vous trouvez ça, ces façons différentes-là de joindre les enfants?
Bien, en fait, c'est vraiment stimulant parce que faire des livres, c'est bien, mais d'arriver à d'autres moyens de raconter l'histoire ou d'exprimer des histoires, c'est vraiment super intéressant. T'sais, j'ai fait aussi un balado pour La puce à l'oreille, oui. Je pense l'année dernière ou l'année d'avant. Puis là, moi, j'ai l'habitude de raconter en images. C'est vraiment comme ça que mes histoires s'expriment. Puis là, je me retrouvais à exprimer seulement en
audio,
son.
Oui.
C'était super intéressant. Donc, de changer ces façons de raconter, je trouve ça super stimulant.
Ah, c'est intéressant. Mathieu, on va passer dans votre univers, dans vos livres à vous. Dans l'épisode 9 de Contes puis racontes qu'on peut voir sur ici, Tout TV, vous dites que souvent, pour trouver vos idées, vous avez improvisé avec vos enfants d'abord, puis écrit l'histoire et enfin réalisé les dessins. Je voudrais mentionner certains de vos livres, improvisés ou non. Hein? Le loup dans le livre... Il va falloir que je m'assoie avec vous pour discuter de Le Loup. Hein. On ne fera pas ça aujourd'hui, là, mais en tout cas. Maman, je suis réveillée, Frouche, Gilles, Toto veut la pomme, c'est quelques-uns. On vous reconnaît dans tous ces albums par le style minimaliste. Marianne en a parlé tantôt, les couleurs franches, un lien texte-image très efficace, des onomatopées, surtout le fait que vous faites confiance aux petits. C'est ce que vous avez dit aussi. Vous étonnez vos lecteurs toujours. Pourquoi d'ailleurs ce désir d'étonner, de ne pas tout donner, tout cuit?
Ben, moi, je pense que ma façon à moi d'écrire, en fait, dans ce que j'ai envie de faire, c'est surprendre.
Ah oui, OK.
Ouais, j'aime bien, tu sais, comme amener mon lecteur, le lecteur, l'actrice, dans une direction, puis... éventuellement essayer de les surprendre. T'sais, c'est quelque chose que j'aime, que j'apprécie dans des œuvres que moi-même je consomme, admettons, au cinéma, dans la littérature. Pas strictement, ça c'est sûr. Mais après ça, quand je le fais, moi c'est un jeu en fait. Là,
un défi,
là,
c'est mon défi. Sur l'autre question, puis, en fait, j'aime jouer avec les mots.
Oui, c'est ça. J'aime bien ça, surprendre. J'aime créer un suspense en fait.
Ouais.
Je vois mes livres comme un peu des mini thrillers, par exemple.
C'est intéressant.
Certains de mes livres. Là.
C'est vraiment fascinant. Vous jouez avec les noms des personnages. Souvent, c'est des doubles syllabes, Toto, Didi, avec certains mots. Il y a Tralala qui devient Lalatra selon le sens et le chemin du personnage. Vous jouez avec l'attention du lecteur qui se demande s'il a manqué quelque chose, qui veut retourner en arrière pour vérifier. Vous jouez, en fait. Le jeu, ça tient une place importante dans votre vie, dans votre travail?
Ben oui, je pense que oui, là, en fait. Là, c'est la première fois qu'on me dit ça, je pense, mais oui, je pense que je suis un grand joueur là, de plein de choses, puis tu sais, surtout... admettons, dans notre vie, dans la vie de tous les jours, là, si je joue avec les enfants, si je joue avec les enfants des autres, à l'école, on était très impliqués aux primaires, puis je me retrouvais souvent à être dans des jeux
en
avec
classe,
les jeunes.
Ouais.
Parfois, il faut que je mesure mon intensité. je me perds un peu, là, mais j'aime beaucoup jouer. Là, j'aime beaucoup être avec les... j'aimais beaucoup jouer avec les enfants quand ils étaient petits, nos enfants.
Ouais.
Puis là, on fait d'autres choses aujourd'hui, mais oui, j'aime jouer. Fait que j'aime
ça
jouer
paraît.
Dans mes livres. Ouais.
Ça paraît. C'est votre dessin qui est devenu l'emblème du manifeste « On a tous besoin d'histoire ». On peut le voir sur la page couverture du manifeste. Un gorille de profil qui tient une petite fille assise dans sa paume. Qu'est-ce qui vous a inspiré cette illustration-là? D'ailleurs, j'en profite parce qu'on peut entendre sur les balados de « On a tous besoin d'histoire », on parle d'un de vos livres, « Maman, je suis réveillée ». Et donc, je reviens à cette illustration sur la page couverture.
Ouais.
Qu'est-ce qui vous a inspiré, cette illustration-là?
Oui, bien, en fait, tu sais, au départ, Marie...
Barguidjian,
elle nous avait demandé d'illustrer... elle a demandé à quelques illustrateurs et illustratrices là, de faire une image. Moi, j'avais préparé cette image-là. Puis, en fait, cette image-là, c'est un clin d'œil à un auteur qu'on aime beaucoup, Marianne et moi, tu sais, qu'on a découvert pas mal en même temps, là. On a lu énormément avec nos enfants, c'est Anthony Brown, et un de ses livres, Anna et le gorille.
Oui,
donc
ben oui.
C'est ça, c'est le gorille qui tient Anna dans sa main. Donc là, tu sais, est-ce qu'il y a un petit clin d'œil aussi peut-être à King Kong,
oui.
Mais au lieu d'être une femme, ben c'est l'enfant, puis l'enfant, en fait... si vous... Je pense que ça apparaît sur l'image, mais ou non. Mais je pense que j'avais écrit Anaïl Goril en tout petit. Est-ce que c'est là?
En fait, c'est écrit Anaïl Goril.
Ah, exactement.
Effectivement. Bon, c'est ça.
Donc là, je l'ai carrément écrit parce que pour moi, c'était important de faire ce clin d'œil-là à Anthony Brown, un autre auteur qui joue beaucoup dans la structure de ses livres, qui joue avec la forme, en fait. Et qui nous surprend aussi beaucoup.
Qui initialement dessinait des planches d'anatomie.
C'était
son travail de formateur. Qu'est-ce qui mijote pour vous deux, comme autrice, comme illustratrice, comme auteur, comme illustrateur? Qu'est-ce qu'on pourra bientôt lire de Marianne Dubuc et Mathieu Lavoie?
Moi, en fait, je suis en train de finir les illustrations de Lucie et compagnie Hiver. Parce que Lucie, que j'avais écrit il y a 9 ans, j'en avais écrit juste un. J'avais toujours une intention de faire une suite. Donc là, je clôt la série avec le quatrième tome, qui est l'hiver, qui va sortir à l'automne.
Oui.
Puis sinon, après, je vais me mettre à l'écriture d'un nouveau livre.
OK. Qu'on a hâte de lire, Mathieu, de votre côté.
Moi, je suis dans l'écriture, là. Je fais un peu de contrat d'illustration. Je fais des trucs qui n'ont rien à voir avec l'édition. Donc, je suis en écriture. Donc, je devrais avoir quelque chose pour cet automne. Là. C'est automne 2024.
Ça mijote, c'est important.
Ouais.
Mathieu, Marianne, c'est la tradition à Imagez-moi à voix haute. On demande aux invités de nous proposer un de leurs coups de cœur littéraire jeunesse. En terminant, est-ce que vous avez une suggestion pour nous? On commence avec Mathieu.
Ouais. Moi, c'est une mauvaise question à me poser si on n'a pas beaucoup de temps, là, parce que je peux pas dire seulement un nom. Mais il y a des gens que j'adore. Benoît Jacques, qui est un auteur belge. Notez-le, c'est vraiment important.
Oui.
Ensuite, Tommy Ungerer, Anthony Brown, c'est des gens... Tommy Ungerer, d'une pertinence encore aujourd'hui. Il va parler de la guerre, il parle du racisme.
Oui.
Une œuvre récente qui est facile à trouver en librairie, d'une autrice qui a peut-être une dizaine d'années, je pense, de carrière. Là. Ça va être Petit Renard.
Oui.
Avec c'est une néerlandaise, Marie Tolman.
On va trouver tout ça sur
magnifique.
Le site de
l'émission. Ouais, c'est magnifique.
Merci pour les suggestions. Et Marianne?
Je vais y aller rapidement. C'est le livre Migrants de Issa Watanabe aux éditions La Joie de lire. En fait, c'est un livre qui est un sujet d'actualité sur les migrants, mais c'est surtout un album sans texte que j'aurais vraiment aimé explorer avec mes enfants quand ils étaient tout petits pour voir ce qu'ils auraient lu dedans.
Ça c'est intéressant.
J'aime beaucoup l'ouverture de lecture que les sans texte laissent. Puis dans celui-là, je pense que c'est un sujet qui peut vraiment amener beaucoup de belles discussions.
Ça m'intéresse. Je vais aller chercher ça. Je vous remercie tous les deux, vraiment. Je rappelle que les auditeurs, donc, on va trouver tous les titres qu'on a mentionnés sur le site de l'émission. Merci, Marianne Dubuc. Merci, Mathieu Lavoie. Merci pour votre travail, le plaisir renouvelé des livres que vous offrez aux petits lecteurs et pour le grand respect que vous leur manifestez. Au plaisir.
Merci à vous, Marie, pour l'invitation.
Marie. Plaisir.
Je m'appelle Violette, j'ai 10 ans, j'aime les livres de la collection Myriane, mais tout le monde l'appelle Myriane.
Je m'appelle Charlie, j'ai 10 ans, j'aime lire des livres de Stéphanie Gervais parce qu'il y a des suspects et des disparitions. Exemple, Clara est partie dans un taxi. Le chauffeur a essayé de faire une disparition. Apparemment, sa fille Sophie s'est fait peut-être kidnapper par quelqu'un ou tu.
Les actuels littéraires!
Encore d'autres idées de lecture et de sorties littéraires. Pour tous les liens, c'est sur le site de l'émission. Dimanche prochain, le 3 mars, à Marie Raconte, je lis l'album Les couleurs de Dadaji de Rashmi Sirdeshpande et Rushi Massan avec l'aimable autorisation des éditions Circonflex. L'histoire se passe en Inde, dans un petit village. Un petit garçon vit heureux avec son grand-père qui lui apprend à peindre. Ensemble, ils remplissent la maison de tableaux, observent les étoiles et invitent parfois les enfants du village dans leurs jeux. Et puis, un jour, le garçon se retrouve seul. Un bel album pour parler du deuil, de guérison et d'espoir avec les enfants. On n'a pas d'extrait, alors faudra écouter dimanche prochain.
Je m'appelle Lou. J'aime lire des livres de Donapelle.
parce que ce livre est magique, car il t'amène dans un univers fantomatique. J'aime le personnage de Côtelette dans Spectropolis parce qu'il il ou elle casse la mâchoire d'un vélociraptor squelette.
Mercredi 28 février à 10h aura lieu le dévoilement des 8 lauréats jeunesse du Prix des libraires du Québec. L'événement a lieu à la Maison de la culture de Montréal-Nord au 12004 boulevard Roland. Après 2 mois de scrutin, les libraires du Québec ont élu parmi les 24 finalistes les 8 titres jeunesse lauréats dans les catégories bande dessinée 0-5 ans, 6-11 ans et 12-17 ans, Québec et hors Québec. L'ambassadrice Sophie Cadieux animera ce spectacle ludique en compagnie du comédien Jules Ronfard et avec la participation des autrices en résidence Guédeline Desrosiers et Chloé Varin. Grâce au Conseil des arts de Montréal, des bourses de 3 000 $ seront octroyées aux lauréats et lauréates québécois-québécoises de toutes les catégories.
Je m'appelle Albert et j'ai 9 ans, bientôt 10. J'aime beaucoup le personnage de Prémaché dans l'histoire du chat moribond car il est très drôle. Par exemple, ses humains l'ont amené à un salon de beauté et en revenant, la première chose qu'il a fait, c'est se rouler dans la boue. C'est pour ça qu'on l'appelle Prémaché.
Du 29 février au 3 mars aura lieu le Salon du livre de Toronto sous la présidence d'honneur de Diane Adam, présidente fondatrice et gouverneure émérite du Conseil de gouvernance de l'Université de l'Ontario français et ancienne commissaire aux langues officielles du Canada. Le thème « Ontario, je t'aime » en français. Les activités auront lieu à l'Agora de l'Université de l'Ontario français de Toronto. Les ateliers scolaires sont offerts les jeudis 29 février et vendredi 1er mars.
Bonjour, je m'appelle Tessa et j'ai 10 ans. Je vous recommande les livres de Rina Telgemeier, comme par exemple « Fantôme », parce que j'aime les illustrations vives, les personnages expressifs et les histoires comiques.
Samedi 2 mars, n'importe quand, entre 13h et 17h, aura lieu l'activité spéciale à l'espace jeune de la Grande Bibliothèque en préparation de la Nuit Blanche, qui se tient justement cette fin de semaine-là. L'activité est offerte aux enfants de moins de 13 ans, des bricolages, des jeux et des activités rappelant la jeunesse de grand-maman avant Internet.
Je m'appelle Cindy, j'ai 9 ans. J'aime les livres de Caroline Héroux car elle fait vivre ses personnages. Je vous recommande Défense d'entrée parce que dès que j'entre dans le livre, je me mets directement dans la peau du personnage Amélie ou Millie. J'aime bien ce personnage car c'est une adolescente ordinaire à qui arrivent des choses un peu fofolles.
Dimanche 3 mars à 14h à la librairie Le Port de Tête au 222 rue Mont-Royal aura lieu le lancement de l'album Partir de loin de Caroline Dawson, illustré par Maureen Poignonec des éditions de La Bagnole. Pour des raisons de santé, Caroline Dawson ne pourra y être physiquement, mais elle y sera en visioconférence. Il y aura une lecture de l'album, quelques mots de sa part et un petit party pour les enfants. J'aimerais vous mentionner quelques nouveautés. D'abord, Abécédaire d'hiver de Fabienne Gagnon et Fanny HH des éditions Station T Jeunesse. L'hiver, qui n'est pas encore terminé, nous apporte bancs de neige, glaçons, rafales et tempêtes, en plus de ses plaisirs polaires. Flocons d'eau, patins, raquettes et rêveries. Un album abécédaire qui fera parcourir à l'enfant la saison hivernale bien au chaud, entre le rire et la poésie. Les personnages humains et les animaux rendent les tableaux drôles, touchants, dynamiques et inventifs pour apprendre, se divertir et rêver. Aussi, il y a « Mon nouvel ami » de Sylvain Bouton, paru aux 400 coups. Zou, loup, demande à sa maman s'il peut inviter un ami à la maison pour goûter ses biscuits à la pistache. En pleine conversation sur son téléphone, elle accepte sans voir que l'ami est un éléphant. Hilarant de voir ce qui arrive lorsque cet ami, pesant plusieurs tonnes, les accompagnera en pleine rue, prendra le métro et tentera de sauter sur le trampoline. Une amitié plutôt invraisemblable qui semble finalement des plus plausibles et un savant mélange d'absurde et de vie quotidienne. Toujours au 400 coups, l'album Les derniers moments de grand-papa d'Yvan Demuy et Jeannou-Ève Le Guerrier. À travers ce récit, Yvan Demuy aborde le thème de l'aide médicale à mourir. Le grand-papa est malade, il perd des bouts de lui. Petit à petit, son corps l'abandonne à cause d'une maladie que personne n'arrive à guérir. Alors, le grand-papa a pris une décision importante. Il préfère partir pendant qu'on peut se dire « Je t'aime ». Un album empreint de sensibilité qui tend à mettre en lumière le cheminement de ceux qui reçoivent l'aide médicale à mourir et celui de leurs proches. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je remercie les invités et les collaborateurs d'aujourd'hui. Annie Pelletier et les élèves de sa classe de 4e année de l'École Saint-Jean-Baptiste à Québec, Tessa McKenzie, Pénélope Guzman et Nicolas Fenchel, Geneviève Mangerel, bibliothécaire à BANQ, notre duo d'auteurs, illustrateurs, éditeurs Marianne Dubuc et Mathieu Lavoie, Michel Brûlé pour le soutien à la recherche, Mathieu Tessier en régie au montage et à la mise en onde et Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique. Je vous souhaite des lectures captivantes et on se retrouve, je le souhaite, dans 2 semaines.